Vous écoutez France Culture.
18h20 sur France Culture, une nouvelle histoire de la folie. Est-ce bien raisonnable? C'est ce que vous allez nous dire, Julie Clarinier, Brice Couturier.
Oui,
18h20, est-ce que c'est du grain à moudre?
On va essayer de répondre à la question et nous avons le plaisir pour cela de recevoir Marcel Gaucher, Jean-François Baer et Claude Quettel dans la cabine technique ce soir. Martin Delafosse, Marie-Christine Closet, c'est du grain à moudre.
La revue Books, qui est notre partenaire, publie dans son numéro de septembre un dossier consacré à la réception du fameux livre de Michel Foucault, Folie et déraison, histoire de la folie à l'âge classique, dont le public anglo-saxon dispose enfin de la traduction intégrale. La polémique, puisqu'il y a polémique, a été lancée par un sociologue américain, Andrew Scull, historien de la médecine et de la psychiatrie, qui, dans un article paru dans le TLS et traduit dans Books, administre une volée de bois vert à notre philosophe national. Alors, pour résumer Scull, Foucault n'apportait pas grand-chose de nouveau sur le plan intellectuel des années 60, qui était dominé par l'antipsychiatrie. Avant lui, Thomas Saze, en même temps que lui, Ronald Lang et David Cooper, dénonçaient déjà abondamment l'institution asilaire comme répression politique, se donnant les apparences de la thérapeutique. Et comme Foucault, il mettait en cause l'opposition entre le normal et le pathologique, qui était d'ailleurs un lieu commun de l'époque. Plus grave, d'après Andrew Scull, donc, les sources sur lesquelles Michel Foucault a fondé sa démonstration étaient datées, elles étaient lacunaires, et du coup, le philosophe les aurait tirées dans le sens qu'il arrangeait, parfois au mépris des faits. En conséquence, la thèse centrale de Foucault, le grand renfermement des asociaux et des insensés à l'âge classique, serait donc un mythe sans réalité historique. Or, il se trouve que Marcel Gaucher avait publié en 1980, en collaboration avec l'historienne et psychiatre Gladys Swain, un essai qui allait justement dans le même sens, la pratique de l'esprit humain. Et il y a une interview donc de Marcel Gaucher sur ce sujet dans la revue Books de septembre. Plus récemment, puisque le livre vient de sortir, l'historien Claude Quettel revient à son tour sur l'histoire de la folie et des traitements par lesquels la médecine a cru pouvoir la guérir, de l'Antiquité jusqu'à la sectorisation, en passant bien entendu par Foucault, dont Quettel conteste l'intuition centrale. Mais ces attaques ruinent-elles le cœur d'une pensée qui continue à questionner notre modernité un quart de siècle après la disparition de son auteur?
Alors nous sommes avec Claude Quettel, qui est donc l'auteur de cette histoire de la folie qui paraît chez Talendier ce mois de septembre 2009. Claude Quettel, qui est historien, directeur de recherche honoraire au CNRS. À ses côtés, Marcel Gaucher, philosophe, historien, bien connu de nos auditeurs, directeur d'études à l'EHESS et rédacteur en chef de la revue Le Débat. Son livre, La pratique de l'esprit humain, date, comme vous le rappeliez, Brice, de 1980. Il est disponible chez Gallimard. Et enfin, nous sommes avec Jean-François Baer, qui est membre du centre Michel Foucault, sociologue, enseignant à l'EHESS, auteur de plusieurs ouvrages sur Foucault et puis l'un des collaborateurs des Archives de l'infamie. C'est le dernier ouvrage inspiré par les travaux de Foucault qui est paru aux éditions Les Prairies Ordinaires.
Alors, on va le voir pendant toute cette émission, il y a le philosophe et puis il y a l'historien, et c'est pas forcément le même métier, c'est pas forcément non plus la même focale. Restent quand même les faits et leur existence ou non. Michel Foucault date, on s'en souvient, de 1656, de la fondation de l'hôpital général, la rupture historique qu'il a présentée dans son histoire de la folie à l'âge classique. Avant, les fous faisaient partie du paysage en Europe, après, ils sont enfermés. Entre l'expérience de la folie à l'époque de Montaigne, sous la Renaissance, et l'expérience de la folie à l'époque de Descartes, ce qu'il appelle l'âge classique, il y aurait, je cite Foucault, une ligne de partage tracée. Qui va, je cite encore Foucault, qui va rendre impossible l'expérience si familière de la Renaissance d'une raison déraisonnable, d'une raisonnable déraison. Bref, l'expérience d'Erasme. Désormais, écrit Foucault, la folie est exilée. Reste à savoir, et c'est quand même la question de fond, est-ce que cette rupture historique que Foucault situe donc très précisément en 1656, est-ce que cette rupture existe à vos yeux, vous, historien de la psychiatrie, Claude Quettel, oui ou non?
C'est moi qui suis censé répondre.
Bah oui, vous êtes l'historien de la psychiatrie parmi nous.
Redoutable responsabilité. Non, 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 ça ne fonctionne pas. Mais ce qui me gêne, c'est de répondre sur ce point ponctuel. Bien évidemment, je peux répondre sur ce point ponctuel. Ça ne fonctionne pas du tout. 1656, le malheureux pouvoir royal. Vous imaginez qu'on suspecte de méchanceté, de cruauté. Le malheureux Louis XIV, il est encore tout gamin. Il sort à peine de la fronde. Et il est dans l'âge baroque. Il n'est pas encore dans l'âge classique. Il n'est en état de règle, rien du tout. Les édits de répression de la mendicité, et non pas de la folie, personne ne parle de folie, datent de François Ier et se répètent année après année, et vont se répéter jusqu'à la Révolution. Et pour la Révolution, ça ne marchera pas mieux. Donc, comment voulez-vous que je vous réponde là-dessus ? Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de visée sur la folie. Pourquoi il y aurait une visée sur la folie, puisque la folie existe depuis toujours ? Alors, je vois que j'étais trop long et je m'arrête.
Pas du tout, mais on va donner la parole à quelqu'un qui, on l'espère en tous les cas ici, va défendre Michel Foucault. Il y a l'historien et il y a le philosophe. Ce qui intéresse Foucault, ce n'est pas le vrai, mais le sens, écrit Kettel, puisque on le cite, il vient de parler. Il y a une différence de focale entre l'historien et le philosophe. Après tout, que Hegel ait mal perçu la portée exacte de certains événements qu'il relate dans la phénoménologie de l'esprit n'invalide pas fondamentalement la portée de ses thèses.
Jean-François Bayen.
Effectivement, je vais essayer de prendre la défense de Foucault, même s'il n'a pas besoin de moi et que le livre répond par lui-même à certaines objections. Je dirais, et vous l'avez bien dit, que si on reprend la thèse, parce que c'est d'abord une thèse, enfin voilà, ça c'est une thèse, ça a sa logique d'écriture, ça a ses stratégies, ça a ses arrangements, comme toute thèse.
C'est une thèse académique en plus.
C'est une thèse académique, donc déjà, c'est intéressant de rappeler ce petit détail. Quel est le projet en fait de Foucault ? Et c'est peut-être intéressant de commencer par là, c'est de dire qu'il fait une histoire de la folie et pas une histoire de la psychiatrie, donc il prend déjà un net parti pris par rapport à cette question. Et on peut repérer deux arguments qui, moi, me semblent centraux dans cette thèse. La première, et vous l'avez rappelé, c'est que la folie, c'est d'abord une décision culturelle. Et je fais attention de dire que ce n'est pas simplement de l'histoire, c'est une décision culturelle. À la source de notre rapport à la folie, il y a un geste de partage, une manière d'exclure l'autre. Et donc, de ce point de vue-là, l'histoire de la folie, c'est une histoire des limites. Et Foucault réactualisera cette histoire des limites dans ses œuvres ultérieures. Le limite entre le licite et l'illicite, entre le permis et le défendu. Allez voir l'ordre du discours sur les discours permis et les discours défendus. Allez voir surveiller et punir sur le licite et l'illicite, sur le normal et l'anormal. Donc cette histoire des limites est centrale dans toute l'œuvre de Foucault. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, et qui, je pense, est ce qui est aujourd'hui inaudible, inacceptable, et qui pose un certain nombre de problèmes, c'est la manière dont Foucault s'est saisi de cette question de la folie, en brouillant un certain nombre de repères académiques qui existaient alors au début des années 60, mais aussi la manière dont il met en question des autorités qui n'étaient jusqu'alors pas mises en question. Et j'en vois deux. La première autorité, c'est celle du psychiatre, en les obligeant à réfléchir finalement sur l'idéologie implicite qui fondait historiquement leur pratique. Donc ça, c'est un premier point. Et la deuxième autorité qui est remise en cause dans l'histoire de la folie, c'est celle de l'historien.
Marcel Gauchet, je le dis rappeler, en 1980, vous publiez un livre qui invalide profondément les thèses de Foucault. À l'époque, il passe relativement inaperçu parce que Foucault domine. Aujourd'hui, je le disais, il y a une espèce de mouvement de balancier qui fait qu'il est attaqué. Oh. Vous triomphez alors ?
J'en ai pas le sentiment. Je crois pas du tout que les choses se passent comme ça. Je vois pas du tout ce mouvement de balancier. Les critiques des historiens à l'égard de Foucault n'ont pas cessé. Car il est très vrai que, sur le plan historique, son livre a des faiblesses évidentes. Et aujourd'hui, l'accumulation des travaux les rend encore plus évidentes. Mais il faut commencer par dire que c'est un très grand livre, l'histoire de la folie, et que critiquer ce livre ne signifie pas le réduire à rien. Il a, à mes yeux, changé complètement, de toute façon, la manière d'écrire l'histoire de la folie ou de la psychiatrie. Et ça, c'est un legs qui demeurera. C'est un livre appelé à rester. Et à l'égard duquel nous avons tenu beaucoup à le dire avec Gladys Swain autrefois, nous sommes très en dette. Mais nous, donc, ça n'empêche pas d'en contester l'interprétation. Alors, sur les questions de fait, on peut débattre à l'infini. Les politiques d'enfermement, la lutte contre la mendicité, 16e, 17e siècle, c'est très compliqué. Il y a une énorme masse de travaux. On peut beaucoup discuter. Mais moi, ce qui me paraît intéressant, c'est la thèse philosophique du livre. La thèse philosophique, en l'occurrence, c'est un emboîtement de thèses. C'est une thèse très riche, donc sophistiquée. Première thèse fondamentale, la raison, telle que, classiquement, on la définit à partir du cartésianisme, la raison moderne, a besoin de l'exclusion de la folie pour se constituer. Ça, c'est la thèse fondamentale. La thèse seconde par rapport à la psychiatrie étant que le savoir psychiatrique n'est qu'une sorte de réplique, comme on parle des tremblements de terre, ou des répliques de sismiques, un siècle et demi après, de cette exclusion primordiale. Bon, alors, débat philosophique énorme sur l'interprétation de Descartes, à l'époque on en a déjà beaucoup parlé, est-ce que véritablement la raison moderne exclut la folie par constitution. Ensuite, elle est aveugle à ce qu'elle a exclu, évidemment. Je laisse le point pour mettre autrement en perspective ce qui me paraît l'enjeu de fond et qui n'est pas qu'un enjeu théorique. Là, dans ce livre et dans toute la postérité nombreuse qu'il a eue, est-ce que le geste fondamental de la modernité occidentale à l'égard de la folie est un geste d'exclusion. Voilà le véritable enjeu. Je suppose résolu le débat épistémologique préalable de savoir qu'il y a des interprétations vraies ou des interprétations fausses. Parce que si on dit qu'il n'y a que des interprétations, ce n'est pas la peine de continuer à parler. Je suppose qu'il y a le moyen d'argumenter contre une telle thèse sur la base d'arguments probants. Et à ce moment-là, tout change. À mon avis, l'interprétation est à la fois tout à fait compréhensible. Je dirais, écrivant 20 ans auparavant, j'aurais probablement fait la même erreur de lecture que Foucault dans le contexte de la fin des années 50 où il écrit. En 1980, et là, l'histoire qui avance change aussi le regard qu'on a sur les choses, y compris dans le cas l'énorme contestation de la psychiatrie asilaire telle qu'elle existait encore dans les années 1960 et qui méritait à coup sûr toutes les critiques dont elle a été accablée et qui l'ont tuée, félicitons-nous-en. Je crois que ça n'est pas comme ça qu'il faut poser le problème. Je crois que fondamentalement, précisément, si on critique la psychiatrie, c'est au nom de la logique de l'inclusion qui est la logique fondamentale de la modernité occidentale qui rend insupportable la manière dont on traitait les fous dans les asiles. Et que là, de ce point de vue, Foucault commet une erreur d'optique, encore une fois très compréhensible, mais qui prend la surface pour le fond. Le fond, c'est l'inclusion. Et en fait, lui-même parle au nom de l'inclusion. C'est pourquoi il dénonce l'exclusion. Ce qui me paraît très important et qui donne à ce débat un tour qui n'est pas académique, c'est que cette erreur d'interprétation a eu des conséquences terribles. Parce que certes, on a aboli les asiles, en gros. Il y a encore des restes pas très brillants dans ce domaine, mais on est loin de la situation qui prévalait à coup sûr au moment où paraît l'histoire de la folie en 1961. Simplement, qu'est-ce qu'on a fait des fous? Eh bien, on les a purement et simplement abandonnés. Et ils sont aujourd'hui en prison, dans la rue.
Sur les bancs publics.
Sur les bancs publics, n'importe où. Ils n'intéressent plus personne. Après le grand moment de critique qui a tellement mobilisé culturellement les années 60 et 70, eh bien, est venu le moment de l'indifférence générale. Et ça, c'est aujourd'hui le problème politique que pose l'interprétation de Foucault. C'est pas que je veuille dire qu'il est responsable de cette situation, mais il a participé de fait d'un mouvement qui a contribué à légitimer, au nom du désenfermement, qu'il fallait opérer, de toute façon, une indifférence collective à la folie. Ce débat n'intéresse plus grand monde aujourd'hui. C'est pourquoi je ne crois pas au retour de Balancier, par parenthèse. Mais en revanche, il y a des gens qui méritent qu'on s'intéresse à eux. Ce sont les fous d'aujourd'hui.
Alors Claude Quettel a quelques pages en effet sur la nostalgie de psychiatres qui ont participé au mouvement de l'antipsychiatrie dans les années 70 et qui aujourd'hui sont nostalgiques finalement de l'institution puisqu'il y avait au moins un adversaire et puis il y avait une théorie. Donc en fait finalement on existait comme discipline et qu'aujourd'hui en effet il y a eu des effets ravageurs comme un retour de bâton sur le domaine de la psychiatrie. Mais je vois que Jean-François Bert veut aller, veut contester, en tout cas veut répondre à Marcel Gaucher sur le fond.
Je ne veux pas
alors
contester.
Cette idée que c'est parce qu'il considérait le fou comme un semblable que les aliénistes l'ont enfermé pour le soigner et non pas comme du différent. Ça, c'est, si j'entends bien Marcel Gaucher, c'est là où il conteste Foucault.
Je reviendrai plutôt sur la fin de son intervention, qui est de dire qu'effectivement Foucault aurait légitimé la situation actuelle autour de l'asile psychiatrique. Je dirais que, et j'ajouterais que, simplement pour modérer un peu cette réponse, je dirais qu'avant les facteurs idéologiques, la misère actuelle de la psychiatrie s'explique aussi et d'abord par des facteurs économiques. Et que ce sont ces facteurs économiques qui ont favorisé, entre autres, l'arrivée de la psychologie comportementaliste, moins chère et évaluable au détriment, par exemple, de la psychanalyse. Donc il y a des éléments autres que idéologiques. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, je pense, toujours par rapport à la fin de votre intervention, que la notion d'enfermement est d'une très grande actualité et que à chaque fois que se pose la question des asiles ou des prisons, se pose cette question de l'enfermement. C'est ce qui explique aussi pourquoi la thèse de Foucault résiste encore aujourd'hui, parce que il y a effectivement cette dialectique entre l'exclusion et l'inclusion, mais il est aussi question de l'enfermement. Et
donc, oui, mais donc oui, Marcel Gaucher.
Pour préciser ma pensée, éviter toute confusion sur un point très semblable, très sensible, il ne s'agit pas de faire de Foucault le coupable d'un désenfermement abandon. Je ne dis pas même qu'il a légitimé. Je dis son discours a objectivement servi.
Ce sont les usages de sa pensée.
Mais oui, bien sûr. La technocratie qui voulait faire des économies dans le champ de la santé mentale s'est dit, mais c'est très vrai, il ne faut surtout pas enfermer ces gens. On va fermer les asiles. On les a fermés, mais on sait pas, on n'a rien mis à la place. Or, c'était ça, évidemment, l'enjeu de la réforme.
C'est une des grandes carences de l'antipsychiatrie française aussi.
Claude Quettel, il y a quand même une assertion fondamentale de Foucault que vous mettez en cause, et elle est quand même assez essentielle à sa pensée. C'est l'affirmation de Michel Foucault que, je le cite, « On sait bien que le XVIIe siècle a créé de vastes maisons d'internement où auraient été enfermés donc ensemble, pauvres, chômeurs, correctionnaires et insensés. Autrement dit, le grand renfermement décrit par Foucault dans son livre classique aurait éliminé de la circulation en même temps les fous et les vagabonds, les victimes des lettres de cachet et les insensés, ce que vous appelez vous les asociaux et les insensés. Pour vous, cette assertion, excusez-moi, procède d'un amalgame. Vous prétendez que les deux moments ne coexistent absolument pas et qu'on ne peut pas mettre dans le même modèle les insensés et les asociaux. Sur quoi vous vous appuyez historiquement pour dire que Foucault a tort quand il assimile le grand enfermement des insensés et des asociaux?
Alors, je vais encore vous faire une réponse de Normand. C'est-à-dire que je vais vous répondre, mais après un petit détour. Je ne voudrais pas n'en rester qu'à ce point.
Il est quand même assez crucial, là.
Essentiel, mais pas suffisant. Je vais commencer par une anecdote. Rassurez-vous, je vois que vous prenez un air inquiet d'un seul coup. Par une anecdote. En 1990, 11, 12, lors d'un colloque à la Salpêtrière, ou à Sainte-Anne, je ne sais plus, j'avais commencé à faire une communication pour vous dire que mes problèmes sur la thèse de Foucault ne datent pas d'hier, sur le thème de « Faut-il critiquer Foucault ?» J'ai été, mais pratiquement sorti de la salle. Le lendemain, dans Le Monde, M. Cajman, je pense que c'est un auteur du journal Le Monde, un rédacteur en chef même, m'a accusé. D'abord, il a parlé de six historiens et ses semblables, Alors,
Dans le monde du 4 septembre, vous êtes traité de romancier carrément.
Hein. Oui, mais là, et c'est semblable. Romancier, ça me plairait bien. Mais et c'est semblable. Je me suis demandé de quelle secte, de quelle maladie il s'agissait. Et même, j'ai été accusé de néo-positiviste. Alors, ça m'a fait beaucoup rire parce que peut-être que pour les philosophes qui sont autour de moi, ce mot est très grave. Mais pour un historien, c'est un mot amusant. Bon, donc, c'était grave de s'attaquer à la pensée de Foucault, à Saint Foucault. Et c'est pourquoi je me suis, dans mon permis de mon livre, 20 pages sur 600, dois-je le rappeler au passage, je me permets de parler de l'évangile selon Foucault. Alors, je vous réponds enfin. Le problème de Foucault, si Foucault veut être philosophe, c'est son problème. Moi, je ne suis pas philosophe, je suis historien. Et je revendique même très fort néo-positiviste. Donc, je compte 2 plus 2 égale 4. Telle date, c'est telle date. 1000, c'est 1000. 100 000, c'est pas 1000. C'est pas 100 000. Donc, ça ne fonctionne pas, son machin. Quand Foucault explique qu'il y a eu une visée de la folie, cette espèce de monisme de la folie, le problème de Foucault, c'est que, pour Foucault, la folie est une espèce de parole empêchée, je le signale, un dire de la vérité. Quand on part de l'Antiquité, on s'aperçoit qu'il y a bien deux folies, une folie effectivement métaphorique, littéraire, tout ce qu'on veut, et puis il y a une folie, maladie, sur laquelle les médecins se penchent. Alors le problème, c'est qu'à l'époque, les médecins sont aussi un peu philosophes. Alors on se retrouve au XVIIe siècle, et au XVIIIe siècle, effectivement, il y a cette... Je vous réponds enfin, monsieur, sur ce problème de l'édit d'enfermement, sauf que ces édits d'enfermement datent déjà, il y en a déjà des tas depuis François Ier, et puis ça fonctionne pas. Alors, du temps de Louis XIV, ça va fonctionner un tout petit peu mieux, on va mettre un peu plus de moyens, puis au bout du chemin, ça va rater quand même, et au bout du chemin, ce ne sont pas, et je vous réponds enfin, et je m'arrête enfin, les fous, les insensés, comme on dit à l'époque, le mot fou n'est jamais prononcé. Les insensés qui sont visés, ce sont les mendiants valides, les gros paresseux qui ne veulent pas travailler, qui mendient, qui injurient non seulement
blasphème.
L'effort, mais aussi la religion. En aucun cas, les fous n'ont jamais été visés. Ils ne le seront jamais. Ils ne le seront jamais.
Sauf par votre psychiatrie positiviste du 19e siècle.
Ah bah oui, mais là, vous m'avez parlé du 17e siècle. Ah ouais. Je vous réponds sur le 17e siècle. Ouais. Ils le seront effectivement au 19e, mais pas au 19e siècle.
Je vous ai lu.
Mais pas tant que ça. Et ils le seront pas au sens, on pourrait le croire, ils le seront au sens d'une prise en charge et de problèmes financiers. Pas, en aucun cas un problème philosophique et métaphysique.
France Culture du Grain à Moudre en partenariat avec le magazine Books. Une nouvelle histoire de la folie est-elle bien raisonnable? Et vous venez d'entendre l'auteur de cette nouvelle histoire de la folie, c'est Claude Quettel, qui est historien. Nous sommes également avec Marcel Gaucher, philosophe, historien également, et Jean-François Bert, qui est sociologue et membre du Centre Michel Foucault. C'est à lui qu'il revient de défendre ici la mémoire du philosophe. Alors, peut-être qu'effectivement, Michel Foucault a un peu tiré les choses, 2 plus 2 égalé peut-être 5 de temps en temps dans son histoire de la folie. Mais ce qui est intéressant, c'est la réception de ce livre, c'est sa postérité. Qu'est-ce qu'il dit des aspirations de l'époque? Pourquoi est-ce que finalement, à ce moment-là, personne ne peut le critiquer? Et Marcel Gaucher, dans les années 80, quand il essaye, effectivement, il a beaucoup de mal à se faire entendre. Qu'est-ce qui se passe avec ce livre? Parce que c'est aussi, je pense, ce qui nous permet de comprendre pourquoi est-ce que cette histoire est aujourd'hui en débat.
Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce livre? D'abord, je dirais... j'ai essayé de répondre à Claude Quettel. Foucault se disait être un positiviste heureux. Donc, vous avez déjà un point commun, ce qui est déjà plutôt assez drôle.
Mais on peut se dire...
voilà. Je dirais simplement... pour que les choses soient claires aussi, de mon côté, j'ai des doutes, de sérieux doutes concernant les critiques qui sont faites aujourd'hui à Foucault. Je ne suis pas historien, je n'ai pas la capacité de juger en mon âme et conscience. Je rappelle simplement effectivement les critiques telles que Andrew Scull les fait aussi, c'est-à-dire le choix des sources, l'étroitesse du champ des citations, finalement que l'histoire de la folie soit une construction intellectuelle sans fondement empirique. Alors, j'ai des doutes, tout simplement parce que toutes ces critiques n'ont pas pris en considération les fiches préparatoires de Foucault, qui existent, qui sont des archives, et qui sont, qu'on montre régulièrement. Alors, un dossier est actuellement disponible sur Internet, sur le site michel-foucault-archive.org. Un deuxième dossier a été montré cet été lors d'une exposition à la Bibliothèque municipale de Lyon. Donc il existe des documents qui permettent de comprendre un peu mieux la démarche de Foucault et effectivement sa pratique d'historien ou de philosophe. C'est-à-dire que là, on peut un peu mieux juger par rapport à ses fiches. Et je vais citer une phrase de Claude Quettel que j'ai trouvée très intéressante dans son livre à la page 95. Il dit « L'histoire ne peut s'écrire que dans le respect de l'archive, toute l'archive ». Et on est exactement dans ce cas-là. C'est-à-dire que toutes ces critiques, alors que ces documents sont disponibles, n'ont pas pris en considération ce qui était montré. Juste, qu'est-ce qu'on voit sur ces dossiers d'archives? Je prendrai un exemple tout simple. On voit que, déjà, ce n'est pas à Uppsala, contrairement à ce que les biographes ont pu raconter, ce n'est pas à Uppsala que Foucault a commencé à travailler sur l'histoire de la folie, mais qu'il a écumé les bibliothèques parisiennes, la Nationale et en particulier son Enfer, la bibliothèque de l'Arsenal, où il a découvert les lettres de cachet, et ça, Arlette Farge pourrait en parler pendant des heures, et beaucoup mieux que moi. La bibliothèque de la ville de Paris, les collections Clérambeau, Jolie de Fleury, la bibliothèque du duc de la Vallière, Sainte-Geneviève sur la mystique, et je m'arrêterai là sur les archives de l'assistance publique pour l'hôpital général. Certes, il voit les règlements concernant Bicêtre et la Salpêtrière, c'est une des attaques qui est faite par Andrew Scull, mais il voit aussi l'état des personnels, le registre des employés, le registre des observations. Et, chose intéressante, et j'en arrêterai là, le registre des entrées. Et il va jusqu'à compter, année par année, le nombre d'entrées. Et je vous citerai juste quatre chiffres pour terminer. 1784, nous sommes à 110 entrées. 1804, 295. 1817, 343 entrées. Et 1839, 549 entrées.
Ça, c'est carrément de l'histoire positiviste avec des chiffres et tout. Mais puisqu'on en est aux critiques anglo-saxons de Foucault, on sait celle donc de Andrew Scull, l'article du TLS traduit dans le numéro de Books du mois de septembre, qui donc un article. On cite les critiques anglo-saxons de Foucault. Je voudrais en citer un autre. Feu le professeur John Waitman, qui a été longtemps. Il est mort il y a 2-3 ans, mais il était un passeur de culture entre la France et la Grande-Bretagne assez important. Et dans les années 80, il avait publié dans la revue Lettres Internationales une attaque contre Foucault qui m'avait pas mal ébranlé. Voici pourquoi. Parce qu'il mettait en cause, Marcel Gauchet, la périodicité des épistémés foucaldiens. Il disait « Renaissance, âge classique, modernité ». Or, dans l'épistémé de la représentation classique, pour citer Foucault, Foucault mêlait, le pire du XVIIe siècle, la contre-réforme catholique, et le meilleur des Lumières. Et franchement, moi, ça m'a toujours frappé quand je disais Foucault, quand il parle de l'ordre monarchique et bourgeois, et c'est en particulier ce qu'il fait dans l'histoire de la folie à l'âge classique. Moi, mes professeurs marxistes m'ont appris que précisément les Lumières et la Révolution française, le 19e siècle, enfin, qu'au 18e siècle, sous les Lumières, la bourgeoisie conquérait l'espace culturel, qu'au 19e siècle, à partir de la Révolution, elle conquérait progressivement l'espace politique, mais qu'en tous les cas, cette bourgeoisie s'était levée précisément contre l'ordre monarchique, qui était lui aristocratique et féodal. Or, ça m'a toujours frappé que derrière l'épistémé âge classique, Foucault enferme et fait coexister ces deux notions que les marxistes, les rationalistes et les libéraux, enfin tous les autres, tendent au contraire à opposer l'une à l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une des sources de la pensée foucaldienne qui la rend difficile à suivre?
Alors, vous parlez là d'autre chose, d'un livre qui date de plusieurs 7 ans, hein, sauf erreur de ma part, après l'histoire de la folie, Les mots et les choses, qui est un livre qui a eu aussi un immense retentissement et dont on peut tout à fait discuter la périodicité. Mais je crois que la problématique est très très différente de celle de l'histoire de la folie.
Tout ce que j'ai cité, c'était dans l'histoire de la folie à l'âge classique. Hein. L'ordre monarchique et bourgeois, c'est dans l'histoire de la folie à l'âge classique.
Non, mais le livre...
Monarchique et bourgeois.
Il y a un livre qu'il faut lire, si on s'intéresse vraiment à la question historiquement, pour comprendre le développement de la pensée de Foucault, le livre indispensable, c'est un livre qu'il a publié en 1953, sauf erreur, de ma part, qui est un tout petit livre, qui s'appelle « Maladie mentale et psychologie ».
Peu connu.
Livre très peu connu, qu'il a d'ailleurs réédité ensuite, en le modifiant assez profondément, sous le titre « Maladie mentale et personnalité ». Et ce petit livre initial contient déjà beaucoup avec des nuances, mais montre une chose qui vous intéressera, Brice Couturier, c'est l'imprégnation marxiste
althusserienne
qui est à l'époque celle de Foucault. Foucault, à l'époque, est un jeune communiste ou apparenté, en tout cas un compagnon de route. Il parle en marxiste de l'histoire de la folie. C'est la vraie origine, je pense, c'est la matrice intellectuelle à partir de laquelle il a travaillé. Ce qu'il faut accorder, évidemment, à Jean-François Bert, c'est qu'il ne faudrait pas faire de Foucault un amateur. Ce serait grotesque. C'est un savant. C'est quelqu'un qui a eu des connaissances immenses et qui travaillait très sérieusement pour écrire ses livres. Mettre cela en doute, c'est pas, je ne citerai aucun nom, mais nous avons des polygraphes industriels dans le monde d'aujourd'hui qui certes écrivent les livres de la façon qu'on écrit, mais c'était pas la sienne. Derrière tout ce qu'il dit, il y a des faits. Alors, sur un certain nombre de points, on peut lui opposer des objections de fait. Parce qu'à des faits, on peut opposer d'autres faits aussi. C'est là où moi, sur le positivisme, cher Claude, je serais un peu plus prudent. Parce qu'un fait par lui-même ne parle pas. Il parle surtout par sa corrélation avec d'autres faits. Tout ce que dit Foucault est généralement solidement établi. On peut simplement lui opposer, mettre les faits qu'il dégage et qui est vrai, dans un autre contexte de fait tout aussi positif et qui en change évidemment la lecture. C'est pourquoi fondamentalement l'enjeu de la discussion autour de son livre me paraît un enjeu d'interprétation, un enjeu théorique. Le chicaner sur des erreurs factuelles, le chicaner sur des livres qu'il n'a pas vus ou qu'il s'est trompé sur l'interprétation de tel ou tel, on peut le faire à l'infini. Et je connais peu de livres d'histoire qui d'ailleurs échappent à cette règle, y compris ceux écrits par les plus fervents positivistes. Parce que ce qu'ils oublient en général, c'est cette mise en perspective des faits qui est une opération intellectuelle et pas une opération strictement définie d'établissement de données.
Wie es eigentlich gewesen, hein, comme disait le fondateur de l'école positiviste.
Justement, alors Marcel Gaucher, puisque vous parlez de l'interprétation, c'est ça qui vous intéresse, c'est la discussion autour de l'interprétation. Je repose la question que j'ai essayé de poser tout à l'heure à Jean-François Bert, c'est pourquoi l'interprétation de Michel Foucault a tant marqué son époque ? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce livre pour qu'il rencontre finalement, autrefois on disait les mentalités, l'état des mentalités.
Non, mais voilà, c'est un livre historique de ce point de vue, dans le sens fort du terme, parce qu'il se trouve télescopé une sensibilité, un mouvement social, on peut le dire, où à partir d'une critique interne au départ, qui s'occupe de critique de l'enfermement dans l'indifférence générale, les psychiatres. C'est au départ un mouvement interne à la psychiatrie, les infirmiers, les gens qui subissent aussi la loi carcérale en même temps que les malheureux confiés à leurs soins. Et puis, à partir des années 60, ça devient un mouvement culturel où la folie devient, en fait, et c'est là la source du problème, d'une manière très indéfinie, une sorte de symbole de toutes les oppressions, un concentré de tout ce qui est refusé dans un moment où les aspirations à la libération individuelle sont immenses. De ce point de vue, le vrai livre de 68, dans ce qu'elle a comme mouvement culturel, c'est l'histoire de la folie, qui à l'époque n'était pas disponible dans sa grande édition, qui n'existait que dans un livre de poche infâme, qui se défaisait dès qu'on l'ouvrait. J'en ai un souvenir terrible, parce que j'ai perdu des pages, j'ai encore cet exemple. Mais il incarnait les espérances et la sensibilité d'une époque. Donc ça, c'est des phénomènes d'histoire.
Jean-François Bert, je posais la question de la périodicité des épistémés foucaldiens. Marcel Gaucher la repousse en disant qu'elle n'est pas centrale. Je vous la repose sous une autre forme parce qu'elle me paraît à moi, excusez-moi, beaucoup plus importante. C'est normal, j'en suis l'auteur. Le fond de la question n'est-il pas, y a-t-il eu, oui ou non, un progrès de la raison quelque part en Europe entre le XVIIe siècle avec Descartes et le XVIIIe siècle avec Kant, ou bien ces progrès sont-ils des illusions entretenues et célébrées pour mieux dissimuler des techniques décrites par Foucault abondamment dans ses ouvrages suivants, de répression, de techniques du pouvoir de plus en plus répressives, de plus en plus. Bref, les Lumières nous ont-elles fait entrer dans un nouvel âge de la connaissance ou ne sont-elles qu'un mythe historique ? Parce que quand on trimballe le concept d'âge classique et qu'on attribue le grand renfermement à l'âge classique et à cette victoire de la raison qui ne peut aboutir qu'en excluant la raison, on nie cette rupture qui, à mes yeux, est évidemment décisive entre, encore une fois, le XVIIe siècle de la contre-réforme et les Lumières. C'est Berchette Gauchet qui veut me répondre.
Un mot, très bref. À mon avis, oui, il y a un progrès de la raison. Votre question est beaucoup plus claire sous cette seconde formulation que sous la première, si vous me permettez, et je crois...
Mais Foucault pensait le contraire, clairement.
Mais oui, il... oui.
C'est quand même,
mais,
c'est mais quand même la... le fond du problème.
Mais la critique de la raison est le cœur culturel de la philosophie des années 60. Et ça, c'est le legs nietzschéen, heideggerien, qui est très important pour les gens qui sortent du marxisme, pour faire court.
Jean-François Bert.
Alors, je ne vais pas répondre à cette question, mais je vais répondre à la question qu'on m'a posée tout à l'heure. Sur...
À la mienne. Voilà.
Voilà. Sur l'impossibilité, effectivement, de déconnecter le livre de sa réception, parce que ça fait évidemment partie de la compréhension du livre. Je dirais qu'il y a quand même deux types de réceptions intéressantes. Une réception académique. Je vous rappelle que Mandrou, Brodel et Barthes, en 61, ont fait des comptes rendus très élogieux concernant ce livre, que dans les années 70, Castel, Jean-Olivier Majastre, sociologue, ou Pierre Lascoum ont aussi récupéré un certain nombre d'éléments et de concepts, si on peut les appeler comme ça, de l'histoire de la folie, non pas en les appliquant tels quels, mais en les discutant assez sérieusement. Castel en particulier ne parle pas de grand renfermement, mais de grand désenfermement. Donc voilà, il y a à la fois un héritage foucaldien, mais il prend ses distances, en tout cas il fait attention. Donc il y a effectivement cette réception académique, et après 68, où Foucault va effectivement incarner et où va devenir le porte-parole d'une attitude antirépressive, pour le dire vite, il y a une réception pratique. Et très précisément, dans le monde de la psychiatrie et de l'antipsychiatrie française, on en parlait tout à l'heure, et on peut assez facilement lire les usages de Foucault en réouvrant des anciennes revues d'antipsychiatres, dont Garde-Fou, dont Psychiatrisé en lutte, dont le journal de la Herlip, qui viennent de mouvances politiques et militantes très différentes, mais qui ont en tout cas un point commun, qui est un usage de Foucault. Et
puis les mouvements de prisonniers aussi.
Alors ça, c'est effectivement...
Foucault a énormément participé.
C'est-à-dire que l'histoire de la folie doit être lue aussi en parallèle avec l'action de Foucault au sein du GIP. C'est-à-dire que les deux choses vont interagir dans ce monde de l'antipsychiatrie. Et je dirais juste que les deux usages fondamentaux de Foucault dans ce moment de l'antipsychiatrie française, c'est de permettre la critique de l'hôpital psychiatrique et de ses règles de fonctionnement quotidien. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. La posture est simple pour ces antipsychiatres, dévoiler les aspects de l'expérience psychiatrique du point de vue de ceux qui la vivent. Et ça, c'est une nouveauté. Et ça, véritablement, Foucault est utilisé pour ça. Et le deuxième point, j'en arrête là, c'est que Foucault va servir à une tentative d'organisation des usagers des hôpitaux psychiatriques. Usagers, comme le disait Marcel Gauchet, à la fois les malades, mais aussi les infirmiers, parce que c'est aussi une catégorie qui va beaucoup lire Foucault et beaucoup s'en inspirer.
Claude Quettel.
Écoutez, pour le peu de temps qui reste, moi, je vous dirais que... Dans le travail de synthèse que j'ai essayé de faire, il n'y a pas de pour ou de contre Foucault. Je parle d'autre chose. Je parle d'une histoire de la folie. Je parle d'une histoire de la folie qui a commencé bien avant. Le problème de Foucault peut être philosophe autant qu'il veut, mais s'il s'agit d'histoire, moi je suis historien et j'ai fait une histoire de la folie en tant qu'historien. L'histoire de la folie existe depuis les temps les plus anciens de l'humanité. Depuis que l'homme est homme, il y a folie. Et quand je dis folie, pathologie. C'est-à-dire il y a une folie, oui, morale, philosophique, mais aussi une folie pathologique. Et si je peux me permettre cette espèce de pari sur l'avenir, il y aura folie jusqu'à la fin des siècles et des siècles, ainsi soit-il. Donc Foucault raconte ce qu'il veut. Moi, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que j'ai essayé de faire une histoire de la folie qui est différente des thèses de Foucault parce qu'elle n'est pas idéologique. Ce qui me gêne, moi, dans Foucault, c'est son idéologie. Ce espèce de d'ayatollah. Écoutez, je suis désolé de prononcer ce mot, mais il y a des ayatollahs, même dans la pensée unique française, et puis qui se portent bien. Et alors, oui, la liberté, l'égalité, toutes choses étant égales. Non, toutes choses ne sont pas... jamais égale, ni dans la richesse, ni dans la pauvreté, ni dans la pauvreté, ni dans la grosseur, ni dans la maigreur, ni dans la folie, ni dans la raison.
Je vous remercie Claude Quettel. Je rappelle que vous êtes historien, directeur de recherche honoraire au CNRS et que vous venez de publier Une histoire de la folie chez Talendier. Merci à Marcel Gauchet, philosophe et historien. Vous aviez publié il y a bien longtemps déjà donc ce livre avec Gladys Swain qui s'appelait La pratique de l'esprit humain. Et puis Jean-François Berthe, donc vous êtes auteur de Michel Foucault, Regard croisé sur le corps, et vous êtes sociologue enseignant à l'école des hautes études en sciences sociales. Je rappelle donc que la revue Books, numéro 8, avec Obama en couverture, consacre un dossier à Foucault, Crépuscule d'une idole. Dépêchez-vous de l'acheter parce que dans quelques jours, il y aura un nouveau numéro de la revue Books.
Mais il sera sans doute tout aussi intéressant. Rendez-vous demain après le journal de la rédaction. Qui va payer la dette sociale? Ce sera avec Jean de Kervas-Douai et Laurent Rabaté, conseiller maître à la Cour des comptes et rapporteur général du rapport qui vient de sortir sur la sécurité sociale. Dugrin Moud, Ruiz Couturier, Julie Clarini, Mathieu Sardin, Francesca Fossati et Nathalie Lempereur.